RMC. Lahaye, l'amour et vous, Brigitte Lahaye.
Et nous allons continuer durant cette deuxième heure à voir si le devoir de jouir a remplacé le devoir de se reproduire avec Thérèse Argot qui est avec nous. Et puis nous commençons notre semaine spéciale sportive avec Olivier Giraud qui sera avec nous dans quelques instants, entraîneur et ancien joueur de handball français. Et puis vous pouvez bien sûr réagir au 32-16 bien sûr. Et puis j'ai le plaisir de vous offrir ce très beau cadeau et ce sera tout les jours, une semaine de vacances en France pour 4 personnes en demi-pension dans un club de vacances parmi 58 au choix. Alors comment jouer? Eh bien c'est simple, vous envoyez un SMS, vous envoyez RMC au 7 32 16 et dans quelques minutes l'un ou l'autre d'entre vous sera tiré au sort, cité à l'antenne et donc pourra partir dans ce club de vacances. Vous voyez, c'est très simple, donc n'hésitez pas, vous envoyez ce SMS RMC au 7 32 16. Bonne chance à tous. On va revenir sur la question de la simulation. Ça, c'est une vraie question qui a toujours...
La question.
Oui, mais c'est vrai parce que les avis sont très, très partagés. Mm-hmm. Et alors, c'est intéressant parce que c'est un homme qui a envie de revenir sur ce sujet. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour. Dans un premier temps, je voudrais vous féliciter pour votre émission.
Je vous en prie, allez-y. Merci.
J'ai la chance là de pouvoir la suivre de manière quotidienne, parce que avant, dans mon milieu, c'est un peu compliqué, vu que je suis du bâtiment et qu'on n'écoute pas trop, mes collègues n'écoutent pas trop ce genre d'émission. Je revenais sur la simulation, alors malheureusement, votre invité m'a piqué beaucoup d'arguments.
Allez-y, redites-les.
Donc j'ai effectivement dit que pour moi, c'était un motif de rupture. J'ai dit de manière frappante, si vous voulez, pour pouvoir intervenir. Mais c'est un motif de rupture au sens où, pour moi, il y a un sens moral. Si vous voulez, l'amour, pour moi, c'est quand même quelque chose. L'amour et l'acte sexuel font un. C'est pas indivisible, si vous voulez. Et je trouve que c'est au même titre que je ne triche pas avec ma femme, je n'accepterai pas qu'elle triche avec moi. Même pour me faire plaisir. Si vous voulez, D'ailleurs, elle ne me ferait pas plaisir parce qu'elle me mentirait. Je m'exprime peut-être très mal.
C'est très clair, Jean-Pierre. Mais je crois qu'encore une fois, et c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait de votre avis ni de l'avis de Thérèse, c'est que ce n'est pas tout noir ou tout blanc, la jouissance chez une femme. Et une femme qui peut avoir énormément de plaisir et puis laisser croire qu'elle a joui à son homme parce que cet homme a besoin ça me paraît pas, le mot trahison me paraît bien bien excessif.
Oui, alors en même temps je dois vous dire que je vous ai écouté j'ai écouté ce que vous disiez. Et effectivement, il y a une nuance que vous avez apportée et sur laquelle je n'avais pas réfléchi, qui est le terme plaisir et jouissance. Et du coup, effectivement, on me file l'antenne alors que vous avez... vous m'avez squeezé, quoi, entre guillemets.
Non, pas du tout, alors sûrement pas. Je ne veux pas vous squeezer, Jean-Pierre.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que je n'avais pas réfléchi à l'acte du plaisir, enfin, à la notion de plaisir et à la notion de jouissance. Et au départ, j'étais parti sur l'idée non pas du plaisir, mais de la jouissance. La simulation en termes de jouissance. Et en occultant en fait le terme de plaisir, ce qui fait que c'est un peu je ne suis pas tout à fait de votre avis, mais d'un autre côté je peux pas dire que vous avez tort.
Et puis je crois que ça dépend, ça dépend des histoires personnelles de chacun. Il est évident, et là je crois que c'est ce que vous voulez dire, si une femme prétend avoir du plaisir, avoir un orgasme, alors que ça la laisse totalement indifférente, c'est vrai qu'on est là à ce moment-là dans une relation qui n'existe pas. Vous avez raison, je crois que
mais
c'est ça.
Mais des témoignages comme ça, on en entend, moi j'en entends quand même pas mal, et c'est vrai que c'est là qu'il y a l'histoire du mensonge de la trahison, parce qu'on envoie une mauvaise information à l'autre, une information erronée. Le fait que ce soit juste agréable et est bon et qu'on exagère le côté agréable, là, il n'y a pas de, de souci. Mais si vraiment, en fait, finalement, le mensonge, il n'est pas tant fait à l'homme, il est d'abord fait à elle-même. C'est-à-dire qu'elle elle ment, elle se ment elle-même. C'est là qu'il y a une histoire de trahison, de mensonge, et qui peut blesser, comme toute histoire de trahison qui blesse l'amour.
L'idée aussi, c'est qu'on va. Voilà. Si je me permets de vous couper. Mais un problème de positionnement, je veux dire qu'on est égaux dans l'acte sexuel et voilà, on est égaux, quoi. Donc je veux dire, c'est comme une soumission quelque part, quoi.
Oui, mais
intellectuellement.
Moi, j'ai quand même envie de prendre la défense de ces femmes qui ne savent pas trop ce que c'est que le plaisir et qui sont face à un homme qui attend de les voir gémir. Qu'est-ce qu'elles font c'est pas si simple. Voilà. Après, évidemment que c'est pas la solution de simuler, mais en attendant, elles n'ont pas beaucoup d'autres solutions. Vous voyez, Jean-Pierre, qu'est-ce qu'elles peuvent faire?
Je suis pas à leur place, donc je ne voudrais pas, si vous voulez, être comme beaucoup de personnes qui s'imaginent avoir les vérités. Mais en tout cas, il y a une chose qui est du vécu, il faut avoir un ego. C'est très enfin, je pense qu'une personne, elle est un tout, elle est un tout dans la vie, elle est pas, c'est pas qu'au niveau sexuel, si vous voulez. Et il faut absolument que ces gens comprennent qu'il faut qu'elles s'affirment en tant que personne. Et en tant que personne, ça veut dire dans tous les actes de la vie, quoi, y compris dans les actes sexuels. Mmh. Et je veux dire que je comprends bien que c'est compliqué, mais si ces personnes-là se sentent coincées par rapport à leur partenaire, conjoint ou autre,
c'est
qu'elles ne se sont pas... Je ne doute pas que ce soit compliqué.
Mais Jean-Pierre, elles ne sont pas coincées par rapport à leur partenaire, elles sont coincées par rapport à elles-mêmes, à l'image qu'elles ont envie d'envoyer d'elles-mêmes. Elles n'ont pas envie d'envoyer d'elles-mêmes une image de femme inhibée, qui frustrée, qui ne sait pas avoir du plaisir. Et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup d'indulgence et je suis beaucoup moins sur cette question de simulation. Je suis beaucoup moins affirmative que beaucoup de cette
simulation. Je ne suis pas affirmative.
Je sais bien.
Mais moi, je voudrais revenir sur une chose. Souvent, ce qui va se passer, c'est que dans les premières expériences sexuelles, comme il y a, on en a parlé au début d'émission, cette pression de devoir jouir, quand ça vient pas tout de suite, vous savez, dans les premiers moments, moi, je vois qu'il y a beaucoup qui sont inquiets. Alors, vous avez précisé en début d'émission aussi que je travaille beaucoup avec les adolescents ou des jeunes adultes, et je vois cette inquiétude en disant, mince, ça marche pas tout de suite. Alors que, en fait, c'est une histoire de rencontre qui va se mettre en place au fur et à mesure et d'un ajustement, et on se réajuste, et que c'est tout à fait normal que dans les premières expériences, même les premiers mois, voire les premières années, on n'arrive pas encore à la jouissance, à la communion parfaite. C'est quelque chose qui se met en place. Alors le danger, simplement, dans l'histoire de la simulation, c'est donc d'envoyer un faux message et de pas apprendre à s'ajuster, et de dire, tiens, on pourrait peut-être encore être curieux de réapprendre autrement, tiens, on va essayer autre chose, tiens, on va découvrir les choses autrement, et de partir du principe que ça devrait marcher dès le premier coup. C'est pas comme ça dans la vraie vie des vrais gens, non, c'est quelque chose qui met du temps pour qu'un homme et une femme puissent s'adapter. Alors parfois il y a un feeling, il y a une espèce d'alchimie avec une personne où ça se passe tout de suite très bien, mais c'est quand même, à mon avis, statistiquement assez rare. Au départ, ça met du temps.
En tout cas, c'est un vrai débat, hein. Simuler ou pas, on en parlera sans doute tout au long de la semaine. Merci en tout cas beaucoup, Jean-Pierre, d'avoir réagi. Et malheureusement, tous les hommes n'ont pas cette ouverture. Élodie, bonjour.
Bonjour, bonjour à votre invité.
Bonjour, Élodie. Alors, vous voulez témoigner parce que vous êtes assez longue pour obtenir justement votre jouissance, et ça a longtemps frustré votre compagnon.
Alors, mon compagnon, oui, déjà d'une part, et puis en fait, il s'avère que moi, je rentre dans le monde du libertinage et je suis extrêmement longue à jouir, voire quasiment impossible. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs hommes qui, sans me le reprocher, parce qu'évidemment, on ne me le reprocherait jamais, mais qui se sentent frustrés, qui insistent, et donc ça finit par faire des rapports beaucoup, beaucoup trop longs, et donc c'est frustrant pour tous les deux, donc j'ai longtemps fini par mettre en fait, oui, c'est juste que il y a un manque de lâcher prise de ma part, et à partir du moment où moi je me suis dit que c'était pas grave. J'en ai beaucoup discuté avec mon mari, évidemment. Et à partir du moment où moi, je me suis dit, c'est pas grave, je prends du plaisir, parce qu'à chaque fois, je prends du plaisir, évidemment. En fait, ça a fini par venir presque plus facilement que le moment où je me disais, ça va pas venir, ça va pas venir, ça va pas venir. Et donc, forcément, c'était bloqué, c'était fini, quoi. C'était plus possible, en fait.
Alors ça, c'est très bien, parce que vous montrez à quel point le fait que vous acceptez votre difficulté, qui au fond on n'en est peut-être pas une d'ailleurs, hein, chaque femme réagit physiologiquement comme elle peut, enfin à partir du moment où vous acceptez, ben, tout se passe beaucoup mieux.
Vous enlevez la pression de devoir y arriver.
Ouais, non, c'est évident, parce que je démarrais le rapport en me disant il faut absolument que j'arrive, et même en mettant toutes les conditions en place, si dans ma tête c'est fermé, ça passera pas, et puis c'est tout. C'est vraiment, je pense, tout est dans la tête, enfin chez les femmes en tout cas, il y a trois quarts qui sont à l'intérieur du cerveau.
Non, tout n'est pas dans la tête, je vous rassure, Élodie, heureusement d'ailleurs, mais en revanche beaucoup de femmes sont cérébrales, c'est-à-dire que beaucoup de femmes, au lieu d'aller vers le ressenti du corps, elles sont dans l'émotion, et donc on est en effet à ce moment-là dans la tête, on devrait même dire dans le cœur, puisqu'on parle d'émotion. Oui. Mais voyez, ce qui est important quand on a tendance justement à se mettre à penser ou à évoquer les sensations qu'on ressent, il faudrait tout le temps repartir sur le corps, c'est-à-dire repartir sur le ressenti du corps et bloquer ce petit vélo qui est dans la tête.
Oui. Non, puis après, dans le milieu du libertinage, il y a aussi cette envie de faire plaisir à l'autre qui est tout plus dans le... Enfin, j'avais plus de mal à être égoïste avec quelqu'un que je ne connaissais pas forcément qu'avec mon mari, avec qui ça marchait évidemment beaucoup plus facilement.
Mais ça, c'est normal, le libertinage, c'est forcément de l'exhibitionnisme et du regard, et on est tributaire du regard de l'autre, et c'est la femme qui va jouir le plus, qui sera la reine de la soirée. Je schématise un petit peu, évidemment, mais c'est quand même un peu ça, et c'est l'homme qui aura eu le plus de coït, qui sera le roi de la soirée. Donc c'est normal que dans un milieu de libertinage, c'est normal que vous ayez plus de mal à être dans votre intimité propre et dans un lâcher-prise, ça me paraît évident.
Et néanmoins, ça m'empêche pas d'aimer beaucoup ça et de prendre énormément de plaisir. Enfin, ça m'a jamais empêché d'adorer ce qu'on fait. Mais c'est vrai que la jouissance, elle est quasiment exclusivement réservée à mon mari et elle est restée extrêmement rare. Et ça me pose pas de problème. Je suis partie du principe que je suis faite comme ça. Et puis,
mais c'est c'est très bien, parce que vous avez dépassé ce fameux devoir de jouir. Mmh. Voilà. Oui. Il y a beaucoup de femmes qui, lors du coït, n'ont pas d'orgasme et qui ont beaucoup de plaisir et qui prennent du plaisir et qui vont faire l'amour jusqu'au bout et sans jamais connaître cet orgasme vaginal. Et alors, où est le problème?
Exactement.
Ouais. D'arriver à s'y faire de ça, c'est une chose importante. Et de se dire juste, on passe un bon moment ensemble qui est agréable, qui est bon. Et voilà. Et en fait, finalement, de recevoir ce qui nous est donné de vivre, quoi. Et c'est quand on est dans cette attitude-là, qu'en général, il y a aussi des très belles choses qui se passent, mais ça demande aussi de recevoir, ce qui se passe, pas dans la pression.
Je voulais juste dire une dernière chose, c'est que moi, si j'ai réussi à découvrir tout ça et à me poser, c'est parce que j'ai un mari absolument formidable qui m'a aidé à avancer sur ce chemin, et je voulais le remercier ici parce que je l'aime très fort.
Il y a plein de déclarations d'amour aujourd'hui, c'est trop mignon.
Je me suis dit que j'allais rester dans le ton.
Mais vous avez raison, et c'est très beau ce que vous dites aussi, parce que vous avez un mari qui vous a accompagné, qui vous a permis d'avancer, et moi je vois beaucoup aussi le mariage dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on va se tirer l'un et l'autre vers le haut, à devenir davantage soi-même au travers de l'autre, et il y a une belle dynamique dans ce genre de couple où finalement on va se libérer l'un et l'autre, et le mariage est aussi un chemin de libération, où le couple devient dans cette perspective-là.
Je suis complètement d'accord.
Et c'est pas ce qu'on entend sur le mariage en règle générale.
Non,
hein.
C'est notre vision du mariage. Un chemin de libération.
Ça fait du bien à entendre. Et puis c'est bien, parce que ça vous devait être la troisième personne, hein, qui évoque un couple très heureux, et ça fait du bien.
Oui.
Merci beaucoup, Élodie, en tout cas.
De rien, merci à vous.
Merci. Et c'est Camille qui a testé pour nous ce Ruel dildo. Alors, dildo, je le rappelle, hein, c'est un synonyme de godemiché ou de jouet intime. On connaît moins ce mot, hein, mais et là, c'est un dildo réel. Ça veut dire qu'il ressemble vraiment à un sexe d'homme, à un pénis. Voilà. Vous l'avez reçu, Camille. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bonjour, Brigitte. Oui, mais il tient les promesses de son titre, dans le sens où, effectivement, on a vraiment l'impression de... Bon, on va pas partir dans des détails un peu gore, mais oui, d'avoir un pénis devant nous, que ce soit le toucher de la peau, le fait de pouvoir faire des mouvements de va-et-vient, même au niveau des testicules, il y a des boules à l'intérieur qui font un mouvement de balancier, donc oui, effectivement, très réel.
Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez nouveau, hein. Il y a le va-et-vient du prépuce, c'est ça, en règle générale, sur un jouet, on n'a pas ça. Non. Et puis il y a la texture, hein, c'est à la fois dur et mou, quoi, si je puis dire. C'est-à-dire que ça passe dureté d'un jouet,
ouais. Hein,
et c'est ce qui laisse à penser que c'est très réel. Voilà, donc vous le confirmez, ça?
Oui, je le confirme.
Bon, et
après,
à part ça,
effectivement, à l'utilisation...
Je l'ai senti. Hein.
Si ressemble comme un vrai, autant prendre un vrai, non?
Voilà, c'est ce qu'il faut dire.
Vrai,
si on prend des jouets, c'est pour avoir des choses, voilà.
Oui, parce qu'il vibre pas, c'est ça?
Non. Non, et puis c'est vrai que ce mouvement de va-et-vient peut même être irritant, en fait. La peau qui bouge directement
oui,
sur les zones génitales.
C'est too much, quoi.
Oui. Bon. Après, pour apprendre peut-être, savoir comment s'en servir, le manier...
À mon avis, il faut l'utiliser pour apprendre à mettre un préservatif avec sa bouche.
Voilà, bah, par exemple.
Ça serait...
Oui.
Pour quand vous donnez des cours dans les écoles,
Thérèse
Argaud, ça peut...
Dans les écoles.
Vous arrivez à l'école.
Je vais être encore invitée, bien sûr.
Bah oui, c'est réel au moins. On peut faire des travaux pratiques sans...
Je sais pas si les adolescents ont besoin de... Ah d'accord, mais donc c'est fait pour, alors.
Il peut être fixé à une table. Je pense que oui.
C'est fait pour l'éducation sexuelle.
Ben, écoutez, voilà. Oui, pour apprendre aux jeunes filles à mettre les préservatifs, c'est important, ça.
Oui, ou les garçons peuvent aussi apprendre pour tout seuls, non? C'est pas que les jeunes filles doivent apprendre.
Non, mais
que les filles apprennent.
Camille vient de dire les garçons, ils ont le matos devant eux.
Oui, voilà. D'accord, ok. Je sais pas si on a vraiment besoin d'avoir des cours pour apprendre à mettre un préservatif. Vous pensez
Les femmes sont très maladroites, hein, moi je confirme. Enfin, c'est en tout cas les échos que j'ai eus. Hein.
Ouais, bah elles sont maladroites, puis il faut qu'elles apprennent directement avec l'homme avec qui elles ont l'expérience, non?
Bah oui, mais quand on n'a pas d'homme sous la main, il faut bien apprendre avant d'en rencontrer un.
Si on a besoin d'en mettre un, ça veut dire qu'il y a un homme sous la main à un moment ou un autre.
Bah, oui, mais si on a appris avant, si on s'est exercé avant, on sait qu'on va pouvoir le mettre.
Faire.
Sinon, on est un peu malhabile.
Vous
imaginez, on rate trois fois, il perd son érection, c'est fini. On repart à la case départ.
Mais c'est pas grave s'il perd son érection, après on reprend. Ouais. Le but, c'est pas d'être dans la performance, Brigitte.
Oui, c'est pas grave. C'est des femmes qui. C'est bien une femme qui dit ça. Hein. Moi, j'ai jamais entendu un homme dire c'est pas grave de perdre son érection. Hein.
La pire chose, c'est quand une femme dit non, mais c'est pas grave. Je pense que c'est la pire formule qu'on peut dire à un homme quand ça lui arrive.
Bon, après ce petit cours de travaux pratiques, Camille, quelle note vous donnez à ce dildo réel alors?
Bon, donc pour tes pratiques d'apprentissage, on va lui mettre un 7.
Ah, quand même, vous êtes généreuse, Camille.
Ah bah pour, il est très pratique pour essayer.
D'accord.
Dans ce cas-là.
7 sur 10 pour ce dildo réel Brad. Vous pouvez le retrouver sur la boutique de l'émission sur rmc.fr si vous le désirez. Merci beaucoup Thérèse Argaud d'être venue nous rejoindre.
Merci pour cette invitation.
Et puis je signale donc que vous serez demain dans l'émission d'Arthur sur TF1 sac à 7,
voilà.
Une petite rubrique sexo demain. Et tout de suite c'est Olivier Giraud que nous allons accueillir. Si vous avez envie de profiter de sa présence pour lui poser une question un peu plus intime, eh bien appelez tout de suite le 3216.
RMC 14h16. 16h, La Haye, l'amour et RMC. La Haye, l'amour et vous, Brigitte La Haye.
Notre premier sportif de la semaine, Olivier Giraud, est avec nous. Vous êtes forcément très très grand puisque vous êtes un ancien joueur de handball. Vous avez été médaillé d'or aux Jeux Olympiques de 2008 à Pékin. Hein, donc,
bien sûr.
Ça fait toujours plaisir de recevoir un médaillé d'or parce que franchement, on n'en a pas tant que ça. Hein,
Écoutez, C'était une opportunité qui arrivait à la fin de ma carrière. C'était le dernier match que j'ai joué de ma vie. Et,
ah, ça, c'est formidable. Terminer comme ça, c'est formidable.
C'était une belle fin.
Mais vous aviez décidé d'arrêter après Pékin ou c'est la médaille d'or qui vous a dit, allez, de toute façon, je ferai pas mieux, j'arrête?
Bah, c'était un petit peu ça. C'est que j'arrivais à un certain âge, j'avais 36 ans et un an avant, j'avais décidé de si j'avais la chance de pouvoir participer aux derniers Jeux Olympiques, parce que j'aurais pu ne pas être sélectionné. Et je m'étais dit que j'aimerais finir au moins sur une Olympiade. Après, on n'a jamais imaginé aller chercher la médaille d'or parce que j'en ai raté deux avant et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Ça a été un beau finish, une belle histoire de fin.
Bah, j'imagine, oui. Alors, je me suis entraînée tout le week-end pour bien dire handball.
C'est bien.
Et non pas handball. Est-ce que ça vous énerve encore quand vous entendez, parce que c'est systématique, le foot prend tellement d'importance partout qu'on dit handball, non, j'imagine.
Ouais, handball, et c'est non, mais ça ne nous énerve pas. Au contraire, ça prouve que c'est souvent des gens qui ne connaissent pas qui en parlent, et si des gens qui ne le savent pas en parlent, bah alors apprends à connaître.
Mm-hmm.
Alors, vous allez dire handball maintenant.
Handball,
c'est bien.
Tout le temps. Grâce à vous, ça y est, c'est ancré dans ma tête. Vous êtes maintenant membre de la Dream Team RMC. Vous êtes consultant sur RMC et BFM. Vous irez au JO en tant que consultant aussi.
Oui.
Voilà. Ça, c'est, j'imagine, toujours une grande aventure de retourner dans des Jeux Olympiques en tant que consultant.
C'est l'envers du décor. J'ai découvert à Londres, puisque j'avais arrêté en 2008, j'ai découvert un nombre l'autre côté du décor, et que franchement, il est aussi éclatant que celui de sportif. Celui de sportif, on est enfermé, on va pour un objectif, on ne s'amuse pas vraiment beaucoup. Hein. On s'amuse quand on gagne, j'ai beaucoup perdu avant de gagner, mais le dehors du décor, vivre les jeux avec le public, avec les spectateurs, à l'intérieur de la ville, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça l'était à Londres, et ça le sera d'autant plus dans une ville comme Rio.
On imagine. C'est vraiment particulier quand on est sportif, parce que finalement on prend sa retraite très tôt. C'est forcément un deuil à faire aussi. Qu'est-ce qui a été difficile pour vous et qu'est-ce qui a été facile?
Tout a été facile à vrai dire, parce que moi je n'avais pas prévu d'être sportif de haut niveau. J'ai eu une carrière assez atypique. Je suis rentré en équipe de France, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé
le vous moment où
je
suis rentré.
J'avais 24 ans et
c'est assez tard.
Oui, c'est très tard. Ouais. C'est très tard. Par contre, j'ai eu la chance d'y rester 11 ans après par la suite. Donc finalement, j'ai comblé ce retard-là, et que chaque fois que je portais le maillot de l'équipe de France, j'avais toujours cette impression que c'était une chance et que ça serait une chance de rester encore un an de plus. Et finalement, cette manière d'être toujours en danger en se disant faut en profiter parce que ça sera peut-être la dernière, c'est peut-être ça qui m'a emmené à aller beaucoup plus loin. Alors, par rapport au don que j'avais à la base, qui n'était pas extraordinaire, finalement ça m'a donné de la volonté pour surpasser ce manque de don.
D'accord. Mais alors, quand vous arrêtez après cette médaille d'or à Pékin, j'imagine il y a un petit blues, un petit contre-coup, non? C'est pas simple à 36 ans de se dire j'arrête ce qui a fait mon succès, ma vie, ce qui m'a, non?
Non, c'est assez particulier. On me pose souvent cette question-là, et je pense sincèrement que le sport, vous savez, ça apporte plus de frustration que de satisfaction. C'est-à-dire qu'il y a plus de chances quand même de perdre que de gagner, et que la chance dans cet arrêt, c'est que j'avais fait le tour et qu'on avait à peu près tout gagné avec mon équipe, et que finalement il n'y avait pas tant de regrets que ça. Et quand on me pose la question si tu retournerais sur le terrain, est-ce que ça ne te manque pas? Si, il y a quelque chose qui manque, c'est cette notion d'adrénaline dans des salles de 15 000 personnes, cette pression qui emporte, qui est inexplicable, et qui finalement, quand on en discute entre sportifs, c'est quelque chose qui est comparable aux drogués un petit peu. C'est-à-dire que ça nous emmène très haut.
C'est comme le chanteur qui monte sur scène. Il y a une sorte d'extase collective, surtout dans un sport d'équipe en plus, non?
Oui, parce que dans le sport d'équipe, lorsqu'on gagne ensemble, il y a quelque chose qui est immuable. C'est qu'on se regarde dans les yeux et il n'y a pas besoin de mots. parce que ce qu'on a partagé, ces émotions, eh ben, on les partage sans même parler. C'est vraiment quelque chose qu'on vit en communion et qui est pratiquement, y a pas besoin d'en parler. C'est magique.
Alors le sport, on fait souvent la comparaison, c'est par beaucoup de testostérone, oui. Vous voyez où je vais en venir, hein, j'imagine, Olivier Giraud. Alors est-ce que tous les sportifs ont quand même plus d'appétit sexuel que la moyenne, et vous en particulier?
Bah, la particularité, c'est que on est très peu exposé à la norme, je dirais. C'est que on vit souvent entre nous, en vase clos, et évidemment que on vit énormément entre nous. C'est beaucoup de dualité entre hommes, et la dualité elle vient aussi par rapport au rapport sexuel, et qu'évidemment les sportifs sont très actifs, oui.
Oui, j'imagine. Hein. Oui. Et le sexe, c'est un sport ou un art?
Je pense que d'abord c'est un sport.
Ah oui.
D'abord c'est un sport, et que je pense qu'en vieillissant on essaye de
d'en
transformer
faire un art.
En art.
Les performances diminuant, il vaut mieux prendre le...
Exactement, on devient moins performeur, plus technicien, je pense.
D'accord. Et on apprend sur le terrain comme le sport, hein, finalement.
Non, je suis pas très d'accord.
Non, mais... alors on apprend comment alors à être un bon sportif sexuel?
Un bon sportif sexuel, il doit, bien sûr qu'il est sportif, mais il ne doit pas se servir seulement de ses performances physiques. Les performances physiques, on pourrait dire que c'est un atout supplémentaire, mais il ne suffit pas, et que au fur et à mesure de la
observer,
vie,
il faut observer l'adversaire.
Il faut observer, et puis il faut surtout analyser l'adversaire.
Alors comment on analyse l'adversaire féminin, Olivier Giraud?
Moi, je suis pas un attaquant.
Vous n'êtes pas un attaquant.
Non, je suis plutôt dans le mode défensif. Oui. On essaye de le comprendre. On essaye de le comprendre, et pour cela, eh ben, il faut discuter. Il faut. Je suis assez rapide pour tout ce qui est décision. C'est-à-dire décision, je suis très instinctif, mais pour l'action, je suis plutôt rationnel.
Mais j'imagine vous êtes grand, vous êtes sportif, vous êtes un beau mec, donc vous avez eu beaucoup de succès auprès des femmes. Vous le sentez ça dès qu'une femme est attirée?
On parle du sportif, et le problème, c'est que le sportif vit dans un monde un peu irréel.
Je parle de vous surtout, hein, Olivier Giraud.
De moi, mon exemple en tant que sportif, je n'ai pas eu beaucoup de succès dans ma jeunesse. Donc,
on se rattrape.
Non, mais ce qu'on dira, c'est que finalement, c'est là où les rapports sont les plus sains et ils ne sont pas tronqués. Et que, évidemment, que...
Vous voulez dire dans le sport,
Dans le sport, et puis dans le rapport à l'autre aussi. Qu'est-ce que l'autre voit de vous? Et qu'on est toujours emprisonné entre deux images, celle qu'on sait de nous-mêmes, mais qu'on connaît très bien, et puis celle que l'autre perçoit de nous. Et qu'à un moment, obligatoirement, en étant sportif, l'image que l'on renvoie aux autres, elle est un petit peu tronquée. C'est pas vraiment notre propre image.
De toute façon, en tant que sportif de handball, vous avez eu votre médaille d'or. En tant que homme, ça je ne sais pas. Est-ce que vous l'avez eu, votre médaille d'or?
On est toujours à la recherche de sa médaille d'or.
Il y a un domaine où on n'est jamais assez satisfait, c'est la sexualité.
On n'est jamais satisfait, parce que est-ce que être satisfait de sa sexualité, c'est être satisfait soi-même, ou être satisfait à deux? C'est toujours la question.
Eh oui, c'est une belle réponse. C'est un sport d'équipe, donc le sexe.
Ah, c'est le sport d'équipe par excellence.
Alors, vous savez que dans cette émission, je donne des conseils tous les jours à des personnes qui se posent justement des questions sur l'amour, la sexualité, etc. Eh bien, la première petite épreuve que vous allez réussir, je suis sûre, avec brio, Olivier Giraud, c'est de conseiller Lionel, qui nous a appelé et qui a besoin de votre écoute et de vos réponses. Bonjour Lionel.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Olivier Giraud.
Bonjour.
Je suis enchanté de vous avoir au téléphone, et je vous félicite vraiment pour votre palmarès absolument magnifique, quoi.
Merci.
Au-delà du palmarès, il y a un vrai esprit derrière, quoi. Et ça m'a toujours, moi personnellement, ça m'a toujours touché.
Merci beaucoup.
Beaucoup de un grand bonhomme, on va dire ça comme ça.
Ah oui, très grand. Non mais je plaisante parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de la médaille d'or à Pékin, mais vous êtes quand même champion du monde en 2001 en France, médaille d'or au championnat d'Europe en 2006 en Suisse. Enfin, il y a en effet un très beau palmarès.
Oui, puis c'est un bon esprit. Et c'est au-delà des performances sportives, voilà, c'est un bon esprit. Et ça c'est chouette. Voilà, c'est assez plaisant.
Merci, c'est tout ça.
Alors, moi, c'est une petite question, parce que moi aussi, je fais un sport co, en amateur, évidemment. Alors, il y a une question que je me suis toujours posée, et c'est vrai que c'est toujours des situations un peu gênantes. À chaque fois que je rentre dans la douche après les matchs, alors tout à l'heure, vous avez parlé de cette espèce d'afflux de testostérone, et évidemment, on est toujours au taquet, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà. Moi, je suis toujours là, après,
comparé. Faut prendre une douche froide.
Ouais, mais c'est pas toujours super efficace. Voilà. Donc, je suis toujours là à comparer nos attributs respectifs, voilà. Alors c'est très gênant. Je suis absolument pas gay. Mmh. Mais voilà, est-ce que vous, ça vous l'a fait également? Est-ce que c'est quelque chose d'assez récurrent? Est-ce que c'est
c'est quelque chose avec lequel on a vécu depuis le collège, parce que aujourd'hui ce n'est plus obligatoire, mais j'ai vécu à une époque où on se comparait pas seulement les sexes, mais on était au collège et c'était les premiers poils qui poussaient. Donc on est toujours dans la comparaison, et c'est vrai que la première chose qu'on voit jeune, la première chose qu'on peut comparer entre nous, eh ben c'est ça, c'est le sexe. Et ce qui est assez drôle, c'est que bizarrement, là où quand on devient adulte, eh ben on se dit que d'avoir un atout avantageux, c'est quelque chose qui peut être bénéfique, pas que pour soi, mais quand on est jeune, ça peut aussi faire office de traumatisme, parce que on peut avoir l'impression de ne pas être normal. Mais donc c'est toujours quelque chose de compliqué et que moi j'ai appris à vivre avec. Alors par exemple, moi j'avais un problème, c'est que j'ai eu des poils pubiens très très tard, et j'étais jaloux de tous mes copains parce que ils avaient des trucs. Et à cette époque-là, dans les années 90, il fallait, pour être un mec, avoir des poils sur le torse. J'en avais jamais eu. Avoir une belle toison. Et ça, je n'ai jamais eu, et ça a été un gros traumatisme jeune. Et donc, moi, j'ai vécu ça depuis tout jeune. Et que ça soit la taille du sexe, que ça soit les poils, je pense que c'est quelque chose qui m'a aidé de faire du sport en communauté, parce que on apprend à vaincre ça. Parce que derrière les premiers regards, et au bout d'un moment, quand on se regarde tous et qu'on a pris l'habitude, c'est quelque chose, comme je suppose les gens qui font du naturisme, c'est quelque chose qu'on ne voit plus.
Oui, c'est pas faux, ouais. C'est pas faux. Peut-être, il faudrait que j'en fasse plus, en fait, peut-être.
Oui, mais cela dit, vous avez raison, hein, Lionel. Ça s'appelle le syndrome du vestiaire, hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui. Mais moi, j'ai quand même tendance à penser, je sais pas quel est votre avis, Olivier Giraud, mais qu'au fond, les complexes, on les a ou on les a pas. Ça dépend de comment on s'est construit, ouais. Et comment on vit son adolescence et sa puberté. Et puis, si on a des complexes, on aura de toute façon une partie de son corps qui servira de support à ce complexe. Non,
oui, complètement. Et que moi, la sexualité, c'est ce qui était assez marrant, c'est que la sexualité, pour moi, elle est venue très très tard, très très tard.
C'est-à-dire
17 ans.
Très très tard. Vous savez quelle est la moyenne nationale
chez les garçons?
Oui.
Bon, je sais pas, mais à l'époque,
c'est 17 ans. Hein, donc vous êtes totalement dans la norme. Voilà. Je peux vous rassurer.
Bon, en tout cas, j'avais plein de copains. On faisait des camps d'ados qui étaient déjà très avertis sur la femme. Sur moi, c'est pas quelque chose. C'est quelque chose qui m'a intéressé très très tard. Et en y repensant aujourd'hui, je comprenais pas ce temps que perdaient mes amis dans ce système de relations. Moi, je pensais plutôt à faire du sport, courir. Bon, ça s'arrangeait un petit peu plus tard.
Auprès des femmes.
Non, et c'est quelque chose que je n'ai, et je le dis sincèrement, je n'ai jamais fait courir après les femmes.
Mmh. Elles sont venues très vite vers vous.
À un moment dans ma vie, oui, c'est plutôt comme ça que ça s'est dirigé.
Mais peut-être parce que vous aviez pas envie de vous réaliser en tant qu'homme à travers les femmes. C'était peut-être le sport qui était votre préoccupation principale, c'est ça?
C'était ma préoccupation principale, et que finalement, c'est lorsque je me suis réalisé en tant qu'homme sexuel, c'était plus pour faire un peu comme les autres, pas par envie personnelle. Mais ça, on le découvre. Hein. C'était la découverte et ça a duré longtemps comme ça dans ma vie. C'était vraiment, comme on parlait tout à l'heure, le vestiaire. C'était se comparer aux autres, ne pas être différent des autres. Et puis finalement, un jour, en discutant et puis en échangeant et plus avec des femmes qu'avec des hommes, ben on s'aperçoit que ben, finalement, on peut être soi-même et qu'on n'est pas obligé de ressembler aux autres. En tout cas, j'avais trouvé un truc super bien. C'était que on avait l'impression que je faisais comme les autres, mais je ne le faisais pas.
Et quand est-ce que vous êtes tombé amoureux la première fois? Vous aviez quel âge?
Ah, on va partir sur les notions de l'amour.
Bah peut-être ça va élever le débat. Le sexe, ça va maintenant.
Coup de foudre, on dira, parce que je sais pas si on peut appeler le coup de foudre l'amour, parce que mais en tout cas mon premier vrai intérêt, ouais, il est
arrivé. Les premiers émois amoureux.
17-18 ans.
Oui.
17-18 ans.
Donc en même temps presque que le sexe alors.
Pratiquement au même moment et voilà, c'était quelque chose. J'ai toujours été intéressé par la relation à l'autre et pourquoi on ressentait des choses, pourquoi à ce moment-là c'était fort c'est quelque chose qui était une quête perpétuelle après.
Et alors vous en avez déduit quoi ?
J'en ai déduit que finalement le coup de foudre on le fuit plus souvent que l'on va vers, parce qu'il nous effraie. Mais quand on comprend que le moment où on ressent cette émotion, en fait, même si la personne en face, on ne la connaît pas, il faut se dire que la personne en face ressent exactement la même chose et qu'à partir de ce moment-là, on passe pas à côté des grands coups de foudre.
Et ça parle certainement beaucoup de nous, de toute façon.
Ça, j'en suis certain.
Olivier Giraud est avec nous. Dans quelques instants, il répondra aux différentes questions intimes. Merci en tout cas, Lionel, d'être intervenu. On se retrouve dans un instant.
RMC. La Haye, l'amour et vous, Brigitte La Haye.
Et notre sportif du jour, c'est Olivier Giraud, ancien joueur de handball français, membre de la Dream Team RMC, consultant RMC BFM au JO cet été. Donc on a évoqué déjà beaucoup de choses, on a parlé un peu du coup de foot, de l'amour. Alors désolé hein, pour les femmes qui sont fans de vous, vous êtes mariés déjà depuis pas mal d'années, 11 ans. Hein,
oui, ça fera 11 ans début juillet.
Et vous avez deux enfants. Donc,
deux enfants, oui.
Voilà. Alors, quelques petites questions indiscrètes, vous êtes prêts?
Oui, allons-y.
Oui, on y va? Bon. Vous êtes plutôt un grand collectionneur ou plutôt sélectif avec les femmes?
Un collectionneur sélectif.
Donc un collectionneur, mais un vrai grand collectionneur. On ne prend que des objets de grande valeur, c'est ça?
Toujours, mais là on ne va pas parler de la vie actuelle, mais il y a eu des périodes de creux, oui, je suis un collectionneur sélectif.
Oui, oui. Quel est à votre avis, votre plus grand atout charme?
Mon verbe.
Ah oui, vous savez bien parler aux femmes.
Ah oui, c'est plutôt dans la parole, oui, toujours. Oui, oui. Toujours dans la discussion.
Et là, qu'est-ce que vous diriez comme ça, a priori, pour me séduire?
Pour vous séduire?
Oui.
Je vous poserai une seule question.
Oui.
La celle qui est la plus importante, je pense, quand on rencontre quelqu'un, c'est de savoir si vous lui plaisez. Et je vous poserai la question directement, est-ce que je pourrais être l'homme qui vous plaît?
Ah oui, vous poseriez carrément cette question.
Exactement.
C'est un peu direct, non? Les femmes doivent être gênées.
Alors, c'est la gêne, c'est quelque chose qui arrive quand on cache les choses. Et pour moi, le premier rapport, c'est un rapport qui ne doit pas être tronqué. Et donc finalement,
droit au but.
Finalement, les enfants sont peut-être les meilleurs séducteurs qui existent parce que eux ne trichent pas et que quand ils ont besoin de quelque chose, ils disent la vérité. Et cette vérité, cette première vérité, je pense que c'est la plus sincère et que c'est celle-là qu'il faut rechercher entre adultes et ne pas rechercher. Voilà, on se perd à vouloir paraître quelque chose qu'on n'est pas.
Bon, en tout cas, pour répondre à votre question, je voudrais pas me défiler. Vous êtes un beau morceau, je confirme.
Voilà.
Olivier Giraud, vous êtes ancien joueur de handball, donc oui. Est-ce que vous
avez du mal avec ça?
Ah non, mais c'est pas
la double articulation.
Non, j'ai pas du mal, mais je veux tellement pas me tromper.
Non, vous inquiétez pas.
J'articule pour être sûr de pas me tromper. Alors, est-ce que vous jouez beaucoup avec vos mains?
Énormément.
Toujours avec les mains?
Toujours.
Oui. D'abord avec les mains.
Ça dépend du moment, ça dépend de la situation. il y a des situations où les mains peuvent être très utiles. Oui.
D'accord. Alors, autre question, on va être, vous savez qu'on parle beaucoup du virtuel aujourd'hui. Est-ce que vous êtes assez fan de justement de toutes des sites porno, d'envoyer des sextos? Est-ce que c'est votre truc ou pas du tout?
J'ai beaucoup, je regarde les sites porno. J'ai toujours regardé lorsque c'est sorti. C'était notre révolution. Vous savez, quand on était sportif, c'est pour ça que je trouve ça assez marrant. Cet esprit de vouloir cacher qu'on n'est pas sexuel lorsqu'on est sportif, parce qu'on veut toujours garder. On le voit, hein, dans les histoires de sportifs. Dès que l'ordinateur, on a pu voyager avec des ordinateurs, bien sûr. D'abord, on avait des vidéos. Et puis, finalement, après, les sites sont arrivés. Et bien sûr que tout le monde regarde. Tout le monde se le cache, mais tout le monde regarde. Donc, la curiosité nous pousse à regarder ces choses-là, bien sûr.
Mmh. Et est-ce qu'on apprend bien en regardant, ou est-ce qu'il vaut mieux pratiquer?
Sur la mécanique, peut-être. Mais dans la mécanique, il manque toujours quelque chose. Il manque l'essence même, le rapport à l'autre. Mmh. Donc, la mécanique, on peut apprendre, hein, techniquement, mais ça ne suffit pas. Attention.
Non, mais il est pas encore là, Vincent. Il me vole mes 3 minutes qui me restent en tête à tête avec Olivier Giraud.
Hein,
franchement, moi je veux deux hommes pour moi toute seule. J'y arriverai pas.
Je voulais rajouter sur la vidéo, c'est bien, mais il faut du temps de jeu. Tu sais, c'est bien beau de s'entraîner, mais après, il faut du temps de jeu.
Ah bah, exactement. Voilà.
C'est une expression
sportive.
La vidéo
pousse à la réflexion, mais à un moment, action.
J'avais compris. Olivier Giraud, la masturbation, c'est génial ou c'est un pire aller?
C'est primordial.
Primordial. C'est aussi pour s'entraîner. Ça, c'est juste le sportif qui parle.
C'est pour s'entraîner, mais c'est pour aussi, la première connaissance de soi. C'est par la masturbation qu'on l'apprend. Connaître son corps, c'est se toucher, c'est se masturber. Et celui qui dit qu'il ne se masturbe pas, pour moi, il y a un problème déjà.
D'accord, carrément.
Oui, mmh. Ça veut dire qu'à un moment, il a un problème avec le moi, avec lui.
D'accord. Vous avez plus facilement tendance à dire je t'aime ou j'ai envie de toi?
J'ai envie de toi.
Oui. Oh, bah, vous assumez bien, hein, c'est formidable. Hein. Et quel serait votre plus grand défaut?
Mon grand défaut?
Oui.
C'est la lassitude.
La lassitude, c'est-à-dire?
C'est-à-dire.
Vous avez besoin d'être surpris, vous avez besoin de fantaisie, vous ennuyez vite?
Je peux vite m'ennuyer, et lorsque je m'ennuie, je ne parle plus. Et quand je ne parle plus, c'est que je ne suis plus là.
D'accord, bon, j'ai de la chance. Pour l'instant, vous êtes encore là, vous parlez encore. Il va peut-être falloir que je vous surprenne avec ma dernière question. Qu'est-ce que je pourrais vous poser comme question pour vous avez, j'ai l'impression au fond que vous jouez le mec assez libéré, assez cool, etc. Mmh. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de romantisme qui se cache derrière tout ça. Je me trompe ou pas?
Non, pas du tout. Pas du tout, mais c'est les grandes faiblesses, c'est celles qu'il faut masquer, c'est celles que...
C'est une faiblesse d'être romantique?
Pour les gens qui ne savent pas le recevoir, ce romantisme, bien sûr que c'est une faiblesse. Mais après, pour ceux qui comptent pour soi, ben non, c'est une force.
J'ai connu des menteurs. Et là, on atteint des sommets.
Non, je crois pas. Je crois qu'il y a quelque chose d'assez authentique chez Olivier Giraud. Vous êtes jaloux, Vincent Moscato.
Oui,
vous êtes jaloux.
C'est mon pote,
ça.
J'ai un peu le brin.
Mais je sais bien. En tout cas, merci d'être venu jouer le jeu. Et puis, ben, écoutez, on vous écoutera pendant les JO. Hein. Vous allez commenter, je suppose, les matchs de handball.
Pas seulement. J'ai fait exprès. Non. Mais en tout cas, avec plaisir, j'espère. Je vous questionnerai sur les Jeux Olympiques en rentrant.
Non, mais moi je serai incollable sur l'équitation. Le reste,
chacun son domaine.
Chacun
d'accord.
Son domaine. Moi, je chevauche les chevaux maintenant. Merci beaucoup, en tout cas, Olivier Giraud. Merci à vous. Vincent Moscato, bonjour.
Je vais vous laisser. Comment ça va, Brigitte?
Ça va bien.
Tu as fait une belle émission avec mon pote Olivier. Ça va, Olivier?
Bah, écoute, top.
T'es en forme?
Ça change les émissions avec toi, quand même. Hein.
J'en ai écouté des conneries, mais là, aujourd'hui, quand même. Non, c'était bien, c'était sincère, c'était intéressant. Eh ben, nous, on va essayer de s'accrocher aux branches. On va parler, bien sûr, de l'Euro, de Djoko, qui a gagné une finale incroyable.
Oh, je suis surpris que Djoko ait gagné.
Non, quand tu vois les couilles, tu dis que c'est mal. Au départ, on ne savait pas quand même. À la base, l'Écossais quand même avait quelque chose à... d'assez alléchant quand même. Moi, je pensais qu'il pouvait.
Tu croyais à cet Écossais?
Ah, j'y croyais.
Non, j'y croyais pas une seconde.
J'aurais pas parié
juste,
la mécénat.
Je vous laisse faire votre émission. Je voulais juste quand même annoncer le gagnant du jour. C'est Jean-Pierre de Fumel qui habite dans l'Oct et Garonne. Et c'est lui donc qui partira dans ce club de vacances. Voilà. Maintenant, je vous laisse totalement l'antenne.
Mais je n'ai rien à rajouter. Je passe derrière toi en essayant d'être aussi brillant tout de suite dans le super
Moscato. Pas trop près, derrière moi.
Non.
Sur RMC, ne ratez rien de l'AL Amour et vous. En podcast avec l'appli RMC et sur rmc.fr.